Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 18. La déclaration que venait de faire le général, approuvée par un signe affirmatif de M. de Virlet, produisit sur tous les officiers une assez vive impression. Certes, il n'y avait pas chez eux de surprise bien grande, puisque le commandant du Louvre ne leur avait pas caché, depuis le départ de l'île d'Aix, qu'on pouvait d'un moment à l'autre rencontrer une des nombreuses croisières anglaises qui tenaient constamment la mer depuis le commencement des hostilités. C'était miracle, avaient affirmé les marins, qu'on eût dépassé les côtes de France sans avoir aperçu même l'ombre d'un bâtiment ennemi. Mais ce qui provoquait cette passagère émotion, c'est que chacun se demandait à quelle partie on allait s'arrêter, étant donné la situation nouvelle. On attendait donc avec anxiété ce qu'allait ajouter le général. Lafayette s'avança vers M. de Virlet. « Commandant, lui dit-il, les paroles que vous venez de prononcer ont retenti dans le cœur de tous les officiers qui nous entourent. Il n'en est pas un seul qui éprouve le désir d'éviter le combat avec les Anglais. S'ils n'écoutaient que leur courage, que l'impatience qui les dévore, il n'y aurait qu'une voie pour vous demander de rallier nos bâtiments et de leur assigner des postes de combat. Aussi, est-ce au nom de ces braves et au mien que je vous demande la permission de vous poser une question. « Parlez, général, répondit le marin dont le visage demeura calme. « Veuillez me dire, commandant, prononça Lafayette, dans combien de temps vous supposez que nous rejoindra l'escadre anglaise ?» Monsieur de Virlet braqua la longue vue sur les voiles que l'on commençait à apercevoir distinctement à l'horizon. Puis, se tournant vers son interlocuteur, « Si le vent ne tombe pas, dans 6 ou 8 heures au plus. » « Ainsi donc, commandant, nous n'avons que ces quelques heures en mettant toute voile dehors pour tenter de reprendre de l'avance ?»« De l'avance, monsieur le général, je croyais m'être déjà expliqué à ce sujet. Mais puisque vous y tenez, je vous déclare de nouveau que toutes les voiles du monde ne pourraient donner plus de vitesse au pauvre navire dont est composée l'escadrille que j'ai l'honneur, mais non pas le bonheur de commander. » Lafayette riposta, contenant à grand-peine un mouvement de mauvaise humeur. « Cependant, monsieur le commandant, nous devons prendre ensemble les mesures que nécessite la situation. « Quelles mesures voulez-vous prendre, monsieur le marquis ?» Puis sans attendre la réponse, « J'en connais une qui s'impose à tous les marins se trouvant dans notre situation. C'est de faire immédiatement le signal à mes bâtiments de virer de bord et de mettre le cap sur l'escadre ennemie. » Et M. de Virlet tendit vers l'horizon sa main agitée d'un tremblement fébrile. Allez au-devant de ceux qui donnent la chasse, répliqua le marquis. Je l'ai déjà dit, monsieur le marquis, on ne donne la chasse qu'à ceux qui fuient. Puis il ajouta d'une voix tonnante. Cette escadre, je vous le jure, ne nous pourchassera pas. Il faisait déjà mine d'emboucher le porte-voix. Lafayette le pria d'un geste de l'écouter. Je sais d'avance ce que vous allez me proposer, et je dois vous épargner la peine d'éprouver un refus. » Le marin avait maintenant sa voix rude des mauvais jours. Pour peu que cette conversation, qui devenait de plus en plus irritante, continuât encore quelques minutes, il y avait à redouter un éclat. Lafayette se donnait, pour ne pas s'emporter à son tour, l'excuse de la différence d'âge existant entre le commandant et lui. Bien décidé à ne pas se laisser aller à un de ces mouvements d'humeur qu'il avait déjà dû réprimer, il prit le temps d'être redevenu calme pour répondre. Ce que vous pourriez refuser au général Lafayette, ne représentant que son opinion personnelle, vous ne le refuserez pas de parti pris au délégué de ces messieurs, chargé de vous porter le résultat d'une délibération. Vous n'avez pas oublié, monsieur le marquis, fit avec hauteur monsieur de Virlet, que je suis seul maître après Dieu de l'escadre dont j'ai accepté le commandement. Avez-vous oublié vous-même que vous vous êtes engagé à transporter mes troupes sur la côte américaine ? Riposta Lafayette. Oui, si aucun obstacle insurmontable ne s'y oppose. Il n'y a que le cas de naufrage qui puisse vous empêcher de tenir strictement les engagements pris. Il y a aussi le cas où l'ennemi m'offrirait le combat. Il faudrait l'éviter à tout prix. Même au prix d'une action déshonorante pour un marin ? Mille tonnerres ! Continua M. de Virlet en s'exclamant. « On pourrait dire à Cherbourg que l'on a vu Virlet faire fuir son foudroyant devant un navire anglais ? On pourrait raconter que l'on a canonné mon Louvre, comme on tire sur l'oiseau affolé qui fuit à tire-d'aile. Ah, ce serait là un admirable couronnement pour une carrière pendant laquelle j'ai exposé 100 fois ma vie dans l'espoir d'ajouter un éclat de plus à notre drapeau de France, fit le marin sur un ton ironique, puis se redressant de toute sa hauteur. Vous avez parlé de délibération, monsieur le marquis. Eh bien, je vais appeler à mon bord le capitaine de chacun des bâtiments. Je les réunirai en conseil pour prendre leur opinion sur la conduite à tenir. Et s'il en est un seul qui ne soit pas d'avis d'accepter le combat, je dépose le commandement entre vos mains. Réunir vos officiers en conseil me paraît effectivement une idée logique. Alors vous acceptez ? S'écria M. de Virlay, persuadé qu'il était que tous les capitaines de marine se rangeraient de son côté. Assurément, déclara Lafayette. Mais, ajouta-t-il après un silence, je demande que mes officiers fassent partie de ce conseil. Je demande que depuis le commandant de Virlay jusqu'à l'enseigne de vaisseau, chaque officier de marine soit appelé à donner son opinion, de même que je laisserai chacun de mes officiers libre de donner la sienne. Le commandant, paraissant subir un moment d'hésitation, Lafayette continua en s'animant. J'admire, je le déclare bien haut, votre courage indomptable. Je suis fier de voir un Français pousser si loin le sentiment de l'honneur national. C'est avec enthousiasme que j'applaudis à la pensée qui vous anime. Et, je l'avoue sincèrement, je me fais violence pour ne pas accepter comme une bonne fortune de me ranger de votre parti et de crier avec vous, sus à l'ennemi. Mais je dois me rappeler que vous et moi nous assumerions la lourde responsabilité de conduire nos hommes à un désastre inutile. Et comme M. de Virlay voulait protester, Lafayette l'interrompit dès le début par ces mots. Ne m'avez-vous pas dit vous-même que notre escadre de transport ne réunissait pas les conditions nécessaires? N'êtes-vous pas certain que les navires anglais plus nombreux sont supérieurement armés? En ce cas, ne serait-ce pas courir à une catastrophe? Ne serait-ce pas sacrifier héroïquement, j'en conviens, mais inutilement, des existences précieuses de soldats que l'on pourrait conserver à la France pour le jour où il sera possible de lutter en nombre suffisant à armes égales, où l'on ne sera pas condamné d'avance à succomber écrasé par le nombre? Le commandant, ébranlé par cette apostrophe, garda le silence. Le général en profita pour renouveler la proposition de réunir tous les officiers en un conseil qui déciderait à la majorité des votants du parti à prendre. Un murmure d'assentiment accueillit ces paroles. « Vous le voyez, » reprit Lafayette, « tous ces messieurs approuvent, vos officiers comme les miens. » Force fut à M. de Virlay de se rendre à l'évidence et de reconnaître qu'en effet, les assistants autorisés approuvaient l'idée de se réunir en conseil. Il réfléchit pendant quelques instants, marchant à pas saccadés, évitant de rencontrer les regards de son maître de timonerie, qui demeurait à son poste, avait entendu la discussion. C'est à grand-peine que Vent Debout avait pu se résoudre à ne pas enfreindre la discipline en venant prendre part à la discussion. Il bouillait de rage, le vieux loup de mer, soupçonnant que son capitaine allait probablement se laisser endoctriner et accepter de s'en rapporter à d'autres qu'à lui-même, alors qu'il avait le droit de commander à tous à bord, lui le maître absolu. Et Vent Debout, chaque fois que son capitaine passait près de lui, poussait des grognements afin d'attirer son attention et se livrait à une pantomime désespérée pour faire comprendre à son chef qu'il devait tenir bon et envoyer promener tous ses trembleurs. C'était effectivement l'opinion de Mathieu sur les officiers de Lafayette, auxquels, du reste, il ne ménageait ni les regards courroucés, ni les injures grommelées à voix basse. Tout à coup, pendant qu'il parcourait des yeux le groupe d'officiers qui attendaient la décision qu'allait prendre M. de Virlay, ses regards se croisèrent avec ceux du chevalier de Vaudrey. Et il pensa. « Je parierais ma vieille tête à couper que celui-là sera pas pour décamper devant l'anglais, lui. » Et déridant sa face contractée, le maître de timonerie cligna de l'œil à Roger comme pour engager celui-ci à venir lui parler. Le chevalier allait vraisemblablement s'approcher du marin quand M. de Virlay s'arrêta tout à coup et s'adressant au groupe en tête duquel figurait le général Lafayette. « Messieurs, dit-il d'une voix forte, j'ai décidé de prendre l'avis de tous les officiers indistinctement. » Vent Debout étouffa un cri de colère et faillit tomber à la renverse. « Tonnerre ! Ils l'ont rendu fou » pensa-t-il. M. de Virlay, aussitôt cette déclaration faite, avait été entouré. Lafayette le félicitait chaudement. Les autres officiers passagers fraternisait avec les officiers du bord. Ce fut, pendant les quelques minutes qui suivirent, un échange de cordialité entre ces hommes également animés du désir de combattre les éternels ennemis de la France. On eût pu croire qu'une escadre anglaise n'était pas en vue et que le voyage s'accomplissait dans les meilleures conditions du monde, à voir la gaieté et l'entrain de toute cette jeunesse militaire. La voix du commandant, dominant le brouhaha, prononça ces mots. « J'invite chacun de vous à quitter le pont pendant que je vais faire exécuter les signaux. » Aussitôt, les officiers se retirèrent, précédés par Lafayette. Alors, vent debout n'y tint plus. Il courut à M. de Virlet et avec des regards de fou. « Mon capitaine, balbutia-t-il, se peut-il que vous ayez consenti? Mais vous ne savez donc pas que toutes ces poules mouillées vont voter contre nous? Mais mon capitaine, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est un tour que vous allez leur jouer, bien sûr. Pas vrai, mon capitaine ? » répétait-il en essayant de rire. « Pas vrai, pendant qu'ils vont s'entrecauser comme des procureurs, vous allez faire virer de bord, et je pourrai gouverner droit dessus ces feignants qui viennent pas assez vite. « Pas vrai, mon capitaine? Que c'est bien ça, et que Vent debout vous a compris? Et que vous n'écouterez pas des gens qui ne savent même pas de quel côté vient le vent ?» Mathieu continuait sur ce ton sans s'apercevoir que le commandant ne l'écoutait plus depuis la première phrase qu'il avait prononcée. En effet, M. de Virlet s'occupait en ce moment de faire revenir à bord du Lougre les capitaines de tous les bâtiments de l'escadrille. Aux signaux qui se succédaient, on répondait de chacun des navires. Bientôt, on put voir les embarcations mises à la mer se diriger à force de rames vers le Lougre. Les premières qui abordèrent furent les deux chaloupes des deux briques dont les capitaines furent reçus avec de sourds grognements par Vent debout qui les avait commencés en très médiocre estime. Tous les officiers étant successivement arrivés à bord du Lougre, le conseil put se réunir. Ce fut un spectacle singulièrement imposant que celui que présentait cette assistance d'officiers de tous grades assemblés dans la grande pièce qui servait à la fois de salon et de réfectoire. Chacun de ceux qui devaient faire partie du conseil de guerre avait été, en arrivant à bord du Lougre, mis sommairement au courant du motif qui les avait fait mander par le capitaine du Foudroyant. Et avant même que la séance eût été déclarée ouverte, les uns et les autres avaient déjà pu se préparer à prendre part à la discussion. Celle-ci, au surplus, semblait devoir être très vive, à en juger par les réflexions qu'échangeaient entre eux quelques-uns des premiers arrivés. Un profond silence s'établit bientôt et chacun se leva pour saluer l'entrée du capitaine de frégate, M. de Virlet, donnant le bras au général Lafayette. Les deux chefs, en se présentant ainsi bras dessus, bras dessous, avaient voulu indiquer à leurs subalternes qu'une sympathie réciproque devait rapprocher les deux éléments militaires qui se trouvaient à bord. Lafayette tenait en outre à faire comprendre aux officiers placés sous ses ordres que dans la discussion qui allait avoir lieu, tout antagonisme entre les officiers du bord et les officiers passagers devait être strictement évité. M. de Virlet prit le premier la parole. « Messieurs, dit-il d'une voix assurée où ne se trahissait aucune émotion, je vous ai appelés à mon bord afin qu'ensemble et après une discussion approfondie sur le parti à prendre, nous puissions exécuter ponctuellement, rigoureusement, les décisions qui auront été arrêtées dans le Conseil de guerre. J'ai prononcé les mots « Conseil de guerre » parce qu'il s'agit d'une chose grave, de laquelle peut dépendre l'honneur du pavillon français. C'est vous dire, messieurs, que vous devez bien vous pénétrer, avant de vous arrêter à une résolution quelconque, de l'importance qu'aura le vote que vous allez émettre. J'ai le devoir d'ajouter que vous pourrez délibérer en toute liberté ne prenant avis que de votre conscience. « Et maintenant, ajouta M. de Virlet, je cède la parole au général Lafayette. Il vous donnera un aperçu de la situation qui a nécessité la réunion de ce conseil. Le général vous posera deux questions auxquelles chacun de vous répondra catégoriquement. La décision sera prise, ainsi que je vous l'ai dit, à la majorité des voix, la mienne compte en double en ma qualité de commandant en chef de l'escadre. » Lorsque M. de Virlet eut prononcé ces mots, Lafayette se leva, et en termes clairs, précis, énergiques, il mit le conseil au courant de la situation. Pour les officiers de marine, ce n'était pas une nouvelle, et ceux-là n'avaient pas été autrement surpris d'être appelés à bord du Lougre pour conférer avec leur chef hiérarchique. Il n'en était pas de même des officiers chargés de commander les détachements de troupes qui devaient être débarqués en Amérique. Le plus grand nombre d'entre eux se trouvèrent fort embarrassés lorsqu'après les avoir mis au courant de la situation, Lafayette conclut en ces termes. « À vous maintenant, messieurs, de voir ce qu'il convient de faire pour que l'honneur du drapeau de France ne soit pas compromis, et que, cependant, notre expédition ne soit pas détournée du but que je me suis proposé, lequel, ainsi que vous le savez, est d'aller nous joindre aux troupes du général Washington afin de concourir à l'indépendance américaine. » Dans un cas aussi grave, ajouta le général, le commandant de Virley et moi croyons qu'il y a lieu de vous consulter. Remercions de cette marque de déférence celui qui a seul droit de commander en maître à bord des bâtiments qui composent notre escadre. Monsieur de Virley, ayant ébauché un mouvement comme pour protester, par politesse, Lafayette s'empressa d'ajouter. « Oui, messieurs, alors que Monsieur de Virley n'aurait qu'un ordre à donner pour que tous les navires placés sous son commandement soient, sur l'heure, gouvernés dans la direction de l'escadre anglaise, il vient vous demander avis, et c'est en son nom que je vous pose ces deux questions. Convient-il d'offrir le combat à l'ennemi? Convient-il, au contraire, de continuer? À vous retirer devant lui ?» interrompit d'une voix vibrante le capitaine du Foudroyant. Cette interruption à laquelle on ne s'était certainement pas attendu fut l'étincelle qui mit le feu à la discussion. Discussion confuse, bruyante et qui menaçait de s'envenimer entre officiers qui, n'étant pas du même avis, s'interpellaient déjà avec une certaine violence. Dans le but d'éviter des altercations, voire des querelles personnelles, il fallait que quelqu'un d'autorisé fût immédiatement chargé de diriger les débats. Lafayette comprit que ce rôle revenait de droit au commandant du Louvre. Mais il estima que ce serait éviter un danger pour tomber dans un autre, étant donné le caractère emporté de M. de Virley. Il y avait à craindre de véritables scènes de violence si la discussion ne marchait pas dès le début au gré du capitaine du Foudroyant. Aussi Lafayette voulut-il employer un biais pour obtenir la nomination d'un président sans froisser l'amour-propre du commandant. « Commandant, s'écria-t-il d'une voix qui dominait le tumulte, tout conseil de guerre demande, ainsi que vous le savez, à être présidé par l'officier le plus élevé en grade. Or, c'est à vous seul, à vous, notre chef, que revient le droit, après avoir réuni le conseil, d'en désigner le président. « Soyez-le donc, ce président, » répondit aussitôt M. de Virley. Et il ajouta en s'inclinant devant le marquis, « Personne ne saurait mieux que vous diriger ces débats. » Lafayette accepta. Il fendit la foule des officiers qui encombraient la salle et s'en fut prendre place à l'une des extrémités de la table. Aussitôt installé, il réclama le silence. À sa voix, qui avait l'habitude du commandement, les conversations particulières prirent fin comme par enchantement. Les membres du conseil se placèrent autour de la table. Plusieurs officiers demandèrent la parole. Elle fut accordée d'abord aux deux capitaines qui commandaient les cutters. Ces deux officiers ne comprenaient pas que la chose pût même être mise en discussion. Lafayette, ayant tout d'abord donné la parole au plus âgé des deux capitaines, celui-ci, dans un langage bref, fit dans le sens que nous venons d'indiquer une énergie de déclaration, fort approuvée par tous les marins. Il avait été dit que, fût-on 1 contre 10, jamais un marin français ne devait consentir à ce qu'on évitât le combat. Le second capitaine de cutter renchérit sur ce que venait de déclarer son collègue. Pour lui, il ferait, disait-il, sauter son bâtiment plutôt que de fuir devant l'escadre anglaise. Et dans une péroraison énergique, il interpella directement M. de Virley par ces mots. « Ensemble, mon commandant, nous nous sommes trouvés en présence de forces bien supérieures à celles dont tous deux nous pouvions disposer. Et cependant, ni vous ni moi, nous n'avons hésité à attaquer. « Oui, à attaquer, » répéta-t-il, « car c'est de nos deux navires que sont partis les premiers coups de canon. « Ah, ce jour-là, commandant, nous n'avons pas dit « tirez les premiers, messieurs les Anglais ». Nous leur avons bel et bien envoyé en même temps nos deux bordées, afin de leur prouver que c'était bien nous les plus faibles en nombre qui voulions entamer l'action. Ce jour-là, il ne s'agissait pas de savoir si nous ne serions pas broyés, pulvérisés par la grêle de boulets, partie de l'escadre que nous attaquions hardiment à la française, décidés à nous rallier autour du drapeau de la France, à le tenir haut dans la victoire, ou s'il nous fallait succomber, à l'engloutir avec nous au fond de la mer. Des applaudissements frénétiques accueillirent cette virulente apostrophe. « Eh bien, » reprit l'orateur quand le silence se fut rétabli, « aujourd'hui comme alors, je me trouve à côté du commandant de Virley. Et comme alors je lui dis, Tirons les premiers, mille tonnerres !» Ces derniers mots avaient électrisé l'assistance. Tous les bras se levèrent pour indiquer qu'il n'était pas un des officiers présents qui ne protesta de son ardent désir de tenir tête aux Anglais. Des deux côtés de la table s'élevait à la fois un bruit répété d'acclamations retentissantes comme une manifestation patriotique à l'adresse de la France. « Oui, vive la France !» s'écria M. de Virlay qui, d'un geste énergique, avait réclamé et obtenu le silence. « C'est à ce cri que nous canonnerons l'escadre ennemie tant qu'il y aura une pièce sur son affût et un boulet à mettre dedans. Oui, vive la France ! Tel est le cri que nous pousserons, aussi longtemps qu'il y aura une de nos poitrines à opposer aux projectiles de l'Anglais. Car je suppose bien, messieurs, que nous sommes tous ici de l'avis du capitaine qui vient de formuler tout haut ce que pense chacun de nous. » Il semblait qu'après ces paroles, la discussion dût être close. En effet, de toutes les parties de la salle s'élançaient les officiers venant se presser autour de leur chef. Au premier rang figuraient les capitaines des deux briques, lesquels réclamèrent l'honneur de serrer la main de M. de Virlay. Le commandant leur ouvrit les bras en s'écriant « Je suis fier de vous, messieurs, et je compte maintenant que chacun fera son devoir au poste de combat que je lui assignerai. » « Oui, oui !» crièrent 50 voix dans une formidable acclamation d'enthousiasme. Et l'on put entendre les matelots, assemblés sur le pont, répondre par des vivas répétés à la manifestation à laquelle venait de se livrer leur chef. Lafayette, très pâle, s'était levé, et les bras croisés, paraissant attendre pour prendre la parole, que le tumulte se fût apaisé. Tout à coup, le chevalier de Vaudrey domina l'assistance houleuse de toute la hauteur de sa taille. Roger était monté sur le banc et levant les bras pour attirer à lui l'attention du marquis. « Général, » prononça-t-il d'une voix puissante, « je demande la parole. » Et comme de toutes parts s'élevaient des protestations, Lafayette dit avec hauteur, « Vous m'avez désigné pour présider la séance. Je n'ai pas le droit de refuser la parole à un officier qui désire présenter à son tour quelques observations. Je réclame le silence et l'attention pour monsieur le chevalier de Vaudrey. » Sur un signe du commandant du Louvre, chacun ayant repris sa place, Lafayette ajouta : « Je donne la parole à monsieur le chevalier de Vaudrey. »